collé sur ce qui se passe ici et ailleurs.
Il n'y a personne qui croit à ça au coup. Là. Tous les autres partis ont dit oui. On le voit, le format avantageait pas M. Carney.
T'as le déficit record, mais t'as le déficit record du déficit record. Parce que t'es sur le podium, puis t'as Éric Gérard, puis t'as encore Éric Gérard. Là.
C'est comme un winner. Les enjeux qui te concernent.
Michel Hamad va faire ses annonces très bientôt. Là. Et ben, nous, on entend dimanche le 6.
Non, ça fait donc bien désiré, M. Hamad.
La nouveauté de Green Day. Le fou rire qui fait ta journée.
Oh, franchement, la gang, là. Je saisis, c'est vous.
Boulevard 102. Pour du monde de Québec, par du monde de Québec. Une propriété Leclerc Communication.
Salut, bonsoir, Québec. Mon nom, c'est Yannick Marceau. Je t'accompagne pour les 60 prochaines minutes pour mon podcast du soir. En espérant que ça aille bien, que tu aies passé une belle journée. On va passer un bon 60 minutes. Juste avant de vous présenter mon invité de ce soir, dans les prochaines secondes, je vous parle de la météo. C'est des nuages pour ce soir. 2 à 4 cm annoncés. La neige devrait débuter vers minuit, c'est ce qu'on nous mentionne, minimum de moins 4 degrés. Demain, vendredi, un ciel dégagé, maximum de 0. Samedi, ce sera nuageux avec 40 % de probabilité d'averses de neige, maximum de moins 2 degrés. Dimanche, des averses de neige ou de la pluie verglaçante avec un maximum de plus 2. Ce soir, on jase avec Michael Lancette, que vous avez connu soit au soleil ou encore soit à TVA Sport ou encore soit à une télé à vision locale de Québec. Michael, qui a eu une solide et qui a encore une solide carrière de journaliste sportif va être avec nous dans les prochaines secondes. Puis on va parler aussi des vedettes d'autrefois. On va faire un peu de mémérage, comment ils étaient ces gens-là. Puis Michael a fait d'ailleurs plusieurs livres, donc c'est un excellent auteur aussi. On va parler de tout ça. Le podcast de Marceau Soir, ça débute maintenant.
Marceau le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau le soir. Le soir. Le soir.
Michael Lancette, salut, comment vas-tu?
Très bien, toi?
Ça va très bien, je veux en savoir plus sur toi ce soir. On s'est déjà rencontrés, je te connais professionnellement. Je te connais pas intimement, mais j'ai suivi ta carrière de journaliste sportif à la télé. Maintenant, tu es au journalisme écrit. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu deviennes journaliste? Ça a commencé comment, cette passion-là?
Écoute, ça a commencé par un petit gars qui croyait pas en lui, qui avait pas confiance, mais qui était bien passionné de sport puis des médias de sport. Tu sais, on dirait que tout le monde voyait que j'étais passionné par ça, que je voulais faire ça de ma vie, mais moi, j'y croyais pas. Fait que c'est comme si que j'ai grandi, j'avais 14-15 ans. Ben, ça a commencé à 9-10 ans que je construisais mes propres journaux puis je vendais ça à ma grand-mère, puis à mes oncles, puis à mes tantes, puis c'était des journaux de sport. Puis ça a comme, puis là, ben de fil en aiguille, ben j'ai construit un site internet. Internet commençait là, fait que j'ai appris le langage HTML, puis j'ai appris comment coder en PHP, puis me bâtir un site internet, puis tout ça. Puis en vieillissant, t'arrives à la fin de secondaire, cégep, puis là faut que tu commences à réfléchir, tu fais quoi de ta vie? Puis à ce moment-là, je l'avais cette passion-là. Là. J'avais mon site Internet, puis je faisais de la recherche déjà sur l'histoire du hockey. Tu sais, honnêtement, j'avais 50 ans à 15 ans. Là. Puis je m'inscris en semaine au cégep, je fais mes 2 ans. Puis là, ben là, faut que tu fasses ton choix. Là. Tu sais, là, j'avais étiré l'élastique au maximum en termes d'attente. J'avais pas voulu m'inscrire en ATM, Arts et technologie des médias à Jonquière,
ouais,
qui était à 15 minutes de chez nous parce que je me disais, les communications, c'est pas pour moi, je suis gêné, ça marche pas, puis tout ça. Fait que là, je me prends un rendez-vous chez la conseillère d'orientation, puis elle me fait passer les tests, et là, elle me dit, je me souviendrai tout le temps, Yannick, je m'assois devant elle, puis elle me dit, Michael, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est pour... Tes tests sont sans équivoque. Je veux dire, pourquoi le journalisme sportif? Pourquoi tu ne t'en vas pas? Tu ne fais pas tout en œuvre pour t'en aller vers ça? Puis je dis, ben, je peux pas. Je suis trop timide, je suis trop gêné, tout ça. Et elle m'a servi le plus beau conseil, un des plus beaux conseils que j'ai eu dans ma carrière. Elle me dit, si tu n'essayes pas, tu ne le sauras jamais. Elle dit, pourquoi tu n'as pas voulu t'inscrire en ATM? OK, mais pourquoi tu ne t'en vas pas étudier en communication à l'université? Puis peut-être que les portes vont s'ouvrir pour toi. Puis si jamais tu sens que le journalisme sportif, c'est pas pour toi, ben tu n'auras pas perdu ces années-là. Tu vas être en communication. Il y a plein d'options qui vont s'offrir à toi. Fait que je te dirais, en gros, ça a été pas mal ça. Ça a germé de cette façon-là.
Puis, t'avais-tu des idoles comme journaliste sportif? Qui tu voyais à télé là, que tu disais « Tabarouette, moi, c'est comme lui que je veux être plus tard. » Qui tu lisais dans les quotidiens que tu disais « Crème, je veux écrire, je veux avoir la même plume que lui? »
Ben, et moi, écoute, tu sais que j'en viens à ma timidité, je ne veux pas me répéter, mais sauf que moi, j'admirais Yvon Penneau à la télé, j'admirais Pierre-Houd, j'admirais ceux que j'entendais, que je voyais. Mais c'est sûr que ceux qui envers qui je m'identifiais le plus, c'était les journalistes de l'écrit, parce que je me disais, ben si jamais j'étais capable peut-être un jour de faire ça, c'est vers l'écrit, moi, que je me dirigerais, parce que t'es un petit peu plus solitaire, t'écris et tout ça. Fait que moi, c'était le trio du Saguenay, là. Yvon Penneau, Bertrand Raymond, Régent Tremblay, trois gars de ma place, de ma région, je suis natif du Saguenay. Fait que moi, j'ai lu énormément ces trois-là. Puis je t'avoue que la plume de Bertrand Raymond, pour moi, elle me rejoignait beaucoup parce que Bertrand Raymond, c'est quelqu'un de profondément humain. Ses textes ont toujours été empreints d'humanité, beaucoup d'empathie. Tu sais, j'admirais ça beaucoup de lui. Puis c'était pas puis le grand jaseur, puis tout ça, quelqu'un de zéro prétentieux et tout ça. Puis ça, je m'identifiais beaucoup en lui. Alors, je te dirais que il m'a beaucoup, beaucoup inspiré.
OK. Puis à la télé, bon, tu t'as parlé de Pierre-Houd tantôt. Ma parole! Mais oui, je veux dire, c'est tout un journaliste, Pierre-Houd, qui a eu une belle carrière. D'ailleurs, on a la chance de l'avoir comme collaborateur une fois de temps en temps du côté de notre antenne. Mais OK, je trouve ça intéressant. Donc, très jeune, c'est quelque chose qui t'intéressait. Puis t'avais-tu... Bon, j'imagine que t'avais des équipes sportives, t'avais tes équipes sportives préférées. Mais, tu sais, t'es un écrivain aussi, là. T'as écrit quelques livres. T'avais-tu déjà en toi l'historien sportif?
Ah oui. Écoute, ça n'a pas de sens. Moi, mon premier site Internet, ça a été un site Internet non officiel sur les Saguenayens de Chicoutimi. Moi, je suis un gars de Saguenay. Puis, bon, c'était l'équipe junior. C'est grâce à cette équipe-là, en premier, que j'ai commencé à découvrir le hockey. J'allais là avec mon père, j'allais là avec mon frère. Puis, honnêtement, ça a été mes premières idoles. Moi, mon premier gardien préféré au Saguenay, ça a été Marc Denis. Tu sais, qu'après ça, genre, qu'on a retrouvé à la télé. Tu sais, on était au milieu des années 90. Fin 90, puis j'avais beaucoup de respect pour Marc et tout ça. Puis honnêtement, tu sais, je ne suis pas fan, je ne suis pas partisan, mais c'est sûr que le volet historique, moi, c'est une corde qui est très sensible. Puis sur mon site Internet, j'avais, mais j'avais une section qui s'appelait Georges Vézina, sans savoir que 15 ans, quasiment, pas 20 ans, mais plus que 15 ans plus tard, j'allais tout reprendre ce que j'avais récolté, lu, puis documenté dans cette section-là, puis que ça deviendrait mon premier livre. Tu sais, en 2020, là, quand est arrivée la pandémie, je me suis lancé dans l'écriture de Georges Vézina, qui était mort il y a 100 ans. C'était le premier gardien vedette de l'histoire du Canadien, puis il y avait toutes sortes de faussetés qui avaient été écrites sur lui, puis je voulais comme essayer de dépoussiérer puis de faire la lumière sur ça avait été qui vraiment Georges Vézina, puis pourquoi 100 ans après sa mort, il y a encore un trophée dans la Ligue nationale de hockey qui récompense le meilleur gardien et qui porte son nom. Puis c'est des trophées qui honorent des Québécois dans la Ligue nationale. Il y en a deux. Il y a Maurice Richard puis il y a Georges Vézina. Puis ça, pour moi, ça parlait très fort. Je me disais, comment ça se fait qu'au Québec, on ne sait rien de ce gars-là? Tu sais, à part qu'il a été bon, qu'il a joué 15 ans avec le Canadien, je veux dire, on ne savait rien d'autre que ça, puis je trouvais ça anormal. Fait que déjà, t'imagines-tu, j'ai 15 ans, puis je décide d'aller à la Bibliothèque nationale, que je décide de fouiller dans tous les sites, dans tous les vieux livres de hockey. Tu sais, j'avais vraiment ça en moi, mais jamais sans savoir que... Sans jamais savoir qu'un jour, je ferai un livre là-dessus. Là. C'était même pas une idée pour moi. Mais tu sais, des fois, on dit qu'il n'y arrive jamais rien pour rien, mais c'était carrément ça.
Exact. Fait qu'on s'aperçoit que ton adolescence, il n'y avait pas vraiment de filles autour là, de ce
corps. Ben, je te dirais que la Bibliothèque nationale, pas tellement. Mettons que c'était le régime sec.
Ouais, c'est
mais, ça. Mais après, c'est venu après. C'est venu après, t'inquiète pas.
Ben oui,
j'ai aucun regret. Je me suis rattrapé après. J'avoue que jusqu'à l'université, moi, c'est l'université qui m'a déniaisé. Premièrement, je suis parti du Saguenay. Puis parce qu'au cégep, j'étais plate. Moi, là, honnêtement, des parties de cégep, j'ai eu mon gros party. Je m'en souviens encore, c'était un running gag avec ma mère qu'elle me ramassait à genoux. Là. J'avais un petit peu trop bu au party de finissant de secondaire. J'ai eu ça. Puis au cégep, écoute, c'est peut-être arrivé un ou deux parties, là, mais sinon, sans plus. Là, à l'université, par exemple, hey, là, je m'en vais du Saguenay, je m'en viens à Québec. Là, j'ai rattrapé le temps perdu.
Bon.
À tous les points de vue.
Voilà.
Fait que c'était ça.
Donc, tu as écrit sur Georges Vézina, tu as écrit sur Les Remparts, tu as écrit sur l'excellent Mike Bossy, Jonathan Huberdeau, Jean-Claude Tremblay. Est-ce que tu avais rencontré des vedettes de l'époque avant de devenir journaliste ou c'est en devenant journaliste que là, ça t'a donné accès à certaines vedettes comme Patrick Roy qui a fait la préface là, de ton livre sur Georges Vézina?
Non, j'avais jamais rencontré personne, mais j'aurais le goût de tu me fais, tu sais, ta question m'allume complètement dans le sens que, tu sais, tantôt, je t'ai dit, je suis pas fan. Et le fait que je n'ai pas, tu sais, je suis un amoureux du sport, un amoureux de hockey, aucun doute là-dessus. Tu sais, je veux dire, je serais bien mal placé pour dire le contraire. Mais je suis pas fan d'une équipe, j'ai pas été fan d'athlète en particulier. Puis ça, je pense que cette approche-là m'a beaucoup servi. Parce que quand j'ai commencé, je me revois, là, tu sais, là, j'ai mon premier site Internet, c'est sur les Saguenayens. By the way, mon site était tellement bon que les vrais Saguenayens, à un moment donné, ils m'ont appelé puis ils ont dit « Combien ça coûte ton site? On va l'acheter, il est meilleur que le nôtre. » Fait que ça, c'était quand même cocasse. Puis après ça, là, je me suis fait un blog. C'était le début des blogs, là, alors j'ai fait ça. Puis, là, je voulais avoir des exclusivités. Tu sais, déjà, j'étais à NewsGaller, je suis encore au baccalauréat en communication, puis j'avais mon blog et tout ça. Puis, j'appelais, crois-le pas, là, j'appelais ou je textais les directeurs généraux du hockey junior de cette époque-là. Fait que c'était Bobby Smith, c'était Patrick Roy. Je me souviens, Patrick, je l'appelais sur les terrains de golf. Il devait dire, c'est qui, lui, qui m'appelle il y a 20 ans, il y a 21 ans? Je n'ai aucune idée. Je ne sais pas c'est qui, il y a un blog. Et Patrick a été très généreux avec moi. Chaque fois que je l'appelais, je me souviendrai toujours, à un moment donné, je l'appelle puis je dis, « Salut Patrick, c'est Mickaël Lalancette. J'ai une nouvelle. Mais selon mes informations, tu vas repêcher Alexander Aftin. » Ça, Aftin, c'était un Russe. Je ne me souviens plus l'année. C'est peut-être 2004 ou 2005 dans ces eaux-là. Et là, je suis au téléphone, mais j'entends, tu sais, bruit de criquet. Là. Patrick, il a le souffle coupé. Tu sais, comment ça que moi, je sais ça qu'il va le repêcher le lendemain? Tu sais, je pense que j'ai gagné le respect du monde en leur montrant que ce dont j'étais capable. Puis c'est pour ça que les gens m'ont pris au sérieux. Mais moi, on dirait que je me prenais au sérieux, puis je n'étais pas intimidé. Fait que, tu sais, moi, d'appeler Patrick Roy puis d'y lancer qu'il allait repêcher Alexander Aftin, ben ça m'énervait pas, tu comprends? Alors qu'un gars de 20 ans qui commence dans le sport, appeler Patrick Roy, il faut que tu aies du front autour de la tête quand tu es blogueur, là, tu sais, je veux dire. Puis moi, ben je l'avais. Fait que ça m'a beaucoup aidé, ça.
Bien, parce que notre réflexe à nous autres, c'est de passer par le bon couloir pour réussir à peut-être avoir une autorisation de parler avec Patrick Roy telle date, à telle heure et tout ça. Mais le fait que tu aies son numéro de cellulaire puis que tu l'appelles puis que tu lui dises qu'est-ce qu'il allait faire comme prochain move le lendemain, je comprends qu'il a décidé d'être extrêmement poli avec toi.
Oui, exactement. Puis je pense qu'il m'avait dit, c'est possible d'attendre à demain matin.
Ah oui.
Je pense qu'il m'avait demandé de ne pas sortir ça parce que là, dans le fond, moi, j'y nuisais. Là. Si ça sortait, ben là, je dévoilais au grand jour son plan. Lui, je veux dire, c'était pas une très bonne nouvelle pour lui. Là, t'sais, là. Mais je pense qu'il y avait aussi le fait, il respectait beaucoup ma passion. T'sais, j'étais passionné. J'aimais tellement ça, Yannick, j'aime encore ça, là, mais je veux dire, déjà à cet âge-là, j'aimais tellement ça. Puis je pense que lui, il disait, hey, le gars, le jeune, ce kid-là, là, il aime tellement ça que, tu sais, respect. Là. J'ai pas le choix de prendre le temps. Puis de faire en sorte que tu sais, d'être généreux, puis d'au moins répondre à ces questions.
Y a-tu quelque chose, un facteur commun de tous les gens que tu as rencontrés qui ont été des maîtres dans leur sport qui se ressemblent beaucoup? C'est-tu la passion? C'est-tu le désir de constamment être le meilleur? T'sais, quand on entend parler de Sidney Crosby, c'est le premier arrivé sur la glace, c'est le dernier sorti, alors que lui, tu sais, il pourrait prendre des breaks une fois de temps en temps. Alexander Ovechkin, ça a l'air que c'est la même affaire. Lane Hudson, que j'ai vu il y a de ça quelques jours, même dans des journées où les pratiques ne sont pas obligatoires, il est là, il se présente alors que c'est un des meilleurs éléments chez le Canadien de Montréal. Qu'est-ce qui définit ces gars-là et ces filles-là, parce qu'il y a des athlètes féminines aussi, qu'est-ce qui définit pourquoi? Y a-t-il un facteur commun que tu pourrais identifier?
Moi, j'en identifie deux pour quand on parle des plus grands. Là, ouais. Premièrement, la passion. Ça, c'est sûr. Écoute, ouais. Moi, ceux qui se sont rendus jusqu'au plus haut sommet de leur sport, sans être passionné, j'en connais pas. Fait que je veux dire ça, c'est la première chose. Puis l'autre élément, moi, qui m'a toujours frappé, c'est la simplicité. La simplicité, l'humilité, moi, c'est la marque des plus grands. Sincèrement, là, tu sais, que ce soit Guy Lafleur, que ce soit Jean Béliveau, tu sais, que ce soit les plus grands qui ont dominé leur sport. Moi, c'est tout le temps ça qui m'a renversé. Tu sais, je veux dire, j'ai eu le front. Tu sais, on parle de front, mais on a eu le front de contacter Wayne Gretzky pour la préface du livre sur Mike Bossy.
Ouais.
Je veux dire, c'était le plus grand, là. Et la simplicité que ce gars-là a, puis la réponse qu'il nous a donnée, ça a été oui, tu sais, oui, n'importe quand, n'importe quoi pour Mike Bossy. Je veux dire, j'étais comme, OK, je comprends. Tu sais, je comprends. Oui, il a été bon. Oui, il a été passionné. Mais au-delà de ça, il est resté terre à terre malgré tout.
Ouais.
Il n'a pas envoyé quelqu'un promener. Il aurait pu, parce que Mike Bossy est décédé. Il ne saura jamais que Wayne Gretzky aurait refusé de faire sa préface. Mais ça, j'ai vu ça dans plusieurs des grands que j'ai côtoyés. Des fois, tu as le personnage public, puis après ça, en arrière-scène, tu as droit à une autre personnalité. Là. Mais souvent, j'ai vu ça, la simplicité, puis de ne pas te laisser emporter par ce que tu as réalisé. Tu sais, moi, c'est peut-être la plus belle leçon que j'ai tirée de mon livre sur Mike Bossy. Tout le monde que je consultais pour raconter sa vie, raconter sa carrière, raconter des moments marquants, ils ont tout le temps fini plus par me parler de l'homme que des performances. Puis ça, ben, c'est la marque des plus grands, je pense en tout cas.
Puis tu parlais de Wayne Gretzky, on est dans les potins un peu. Ovechkin est rendu à quoi, 6 buts du record de Wayne Gretzky?
Là, j'ai moins suivi dans les derniers jours, mais à peu près, oui.
Il est autour
c'est une question de temps.
Je pense qu'il a marqué hier, là, mais à 4 buts du record de Wayne Gretzky, Gretzky a accepté d'embarquer dans une caravane qui allait suivre partout où Alexander Ovechkin allait jouer jusqu'à temps qu'ils réussissent à battre le record ou à l'égaliser parce qu'ils vont faire un documentaire sur le record d'Alexander Ovechkin. Et Gretzky a accepté de participer à ce documentaire-là.
Ah, tu vois, quelqu'un qui a un orgueil mal placé ne fait jamais ça.
Exact. Je veux dire, tu sais... T'es le great one, là. T'es le gars qui avait les plus grands records. Et là, tout d'un coup, il y a un Russe qui arrive, qui l'accote, puis qui va peut-être même le battre. Il pourrait rester à la maison en disant, regarde, je souhaite qu'il se casse une jambe puis qu'il puisse plus jamais jouer au hockey. Non, non, lui, il accepte d'embarquer dans le caravane puis il va suivre Alexander Ovechkin. Puis quand il battra son record, ben il va aller serrer la main. Ça en dit beaucoup, exact, sur l'athlète, là.
Tellement, tellement, tellement. Parce que, puis ça me fait penser, justement, Mike Bossy, tu sais, quand... Mike a égalé le record de Maurice Richard 50 en 50. T'sais, Mike s'était fixé cet objectif-là et tout ça. Puis Maurice Richard, ben c'est sûr qu'écoute, un homme très orgueilleux, très fier d'avoir été le premier à faire 50 en 50. Puis là, il voyait un gars, un petit jeune qu'il connaissait bien, parce que la famille Bossy puis la famille Richard, ben, c'était deux familles d'un cycle du même quartier puis qui se connaissaient. Et Maurice Richard avait été très élogieux puis très généreux avec Mike. Il n'avait pas pu être à Long Island lorsque le record s'est été égalé. Mais ils ont participé à des émissions de télé après ensemble. Puis il y a juste Mike qui avait blagué en disant « Ouais, il m'a serré le cou pas mal un peu fort sur la prise de photo, là, mais sinon il a été bien fin. » Alors oui, moi, je crois à ça. Je crois à ça. Tu peux passer à l'histoire puis t'établir comme le meilleur ou l'un des meilleurs, mais rester dans le fond une bonne personne. Moi, je crois ça fondamentalement.
Ouais.
Puis c'est d'ailleurs ce qui permet à ces légendes-là de marquer le cœur des gens. Moi, j'ai vu Guy Lafleur, là, du monde. J'étais à Regina, à Saskatoon, à Red Deer en Alberta, plein de villes canadiennes que j'ai faites grâce à TVA Sports et à mon métier de journaliste. Puis on voyait Guy Lafleur débarquer. Puis tu sais, Guy Lafleur, je veux dire, c'est une idole ici au Québec. Mais je peux te dire une chose, c'est une idole dans le reste, partout au Canada, dans toutes les villes canadiennes. Puis souvent, il y avait un relationniste ou quelqu'un de la Ligue canadienne de hockey qui suivait Guy Lafleur et qui lui disait, « Monsieur Lafleur, est-ce que vous voulez qu'on prenne un raccourci? Là, en dessous de l'aréna, il y a un chemin, là, puis ça va vous amener à la loge. » Et Guy Lafleur, là, s'il y avait quelque chose qu'il avait en horreur, c'est ça, là. c'est de prendre des raccourcis puis des petits corridors secrets pour éviter le monde. Non, c'était pas ça. Lui, il prenait le temps puis tout ça. Et c'est pour ça que, je veux dire, c'est pour ça que cet homme-là a eu des funérailles nationales. Puis c'est pour ça que le monde... Moi, j'ai couvert les funérailles. J'étais dans l'église, j'étais au Centre Bell. Écoute, le nombre de personnes que j'ai vues en pleurs, des gens en sanglots, des gens qui ont de la misère à respirer. Tu sais, je veux dire, c'est ça, là, les performances de sport. Puis c'est ça, les idoles, les icônes de sport. Fait que quand tu es dans la simplicité, puis quand tu restes toi-même, ça, les gens le savent. Ils le sentent, ils le savent, puis ils ne l'oublient pas, même quand tu décèdes.
Oui, on avait dit beaucoup de belles choses aussi de Jean Béliveau, puis je me souviens d'un moment donné où on nous avait raconté, c'était peut-être même dans un de tes reportages, là, du temps où tu étais à la télé, mais Jean Béliveau prenait la peine de bien signer son nom, Jean Béliveau. Oui. Il faisait pas un barbeau, puis ce qu'on nous racontait à travers ce reportage-là, c'est que lui trouvait ça tout à fait adéquat de bien signer pour que les gens puissent regarder leurs souvenirs 20-25 ans plus tard, puis se souvenir de à qui appartenait cette signature-là. Tu sais. Je trouvais ça... Je trouvais que c'était une belle attention de la part de M. Béliveau qui avait des demandes d'entrevue constamment, des demandes de dédicaces constamment. Ça devait être hallucinant, mais lui prenait la peine avec chaque personne de passer un petit moment parce qu'il savait ce qu'il représentait pour son sport.
Ben, tu sais, puis écoute, c'est pas pour rien. Quand c'est les deux grands, là, les deux derniers grands après Maurice Richard, Jean Béliveau, Guy Lafleur, le nombre de personnes qui ont des articles souvenirs ou des photos. C'est ça, ça en dit long. Moi, je trouve que, je veux dire, quand ces personnalités-là décèdent, puis tout le monde a sa photo, je veux dire, ça veut dire que c'est des gens qui ont été dans le monde. Là. C'est pas t'es assis une table puis tu charges 50 piastres pour donner une signature. C'est des gens qui ont vécu, qui se sont impliqués énormément dans des tournois, dans des fondations, dans des ci, dans des ça, puis qui ont été à travers le monde, puis qui ont été généreux, puis qui se sont appliqués. Puis oui, t'as raison sur la signature. Puis Guy Lafleur, ça a été ça. T'sais, il y avait une signature très appliquée. Tu n'as pas besoin tu reconnais la signature. Tu es capable de la lire, la signature. Puis ça, pour eux, c'est important. Mais moi, je respecte ça. Puis honnêtement, on a beaucoup à apprendre comme être humain de ces grands-là parce qu'ils vivent des grandes choses. T'sais, c'est pas des vies comme la mienne puis comme la tienne. Là, ils sont dans un autre univers. Puis quand tu es capable de rester, de garder la tête froide dans tout ça, je veux dire, on a à apprendre de ça. Parce que dans nos joies, dans nos peines, dans nos moments plus difficiles, tu sais, je veux dire, Guy Lafleur, s'il y en a un qui en a vécu des moments difficiles, ça a été lui. Puis, tu sais, il a gardé sa dignité jusqu'à la toute fin dans tout ce qu'il a vécu. Puis moi, je trouve que ça, pour moi, c'est une grande inspiration. Honnêtement, moi, T'sais, Maurice Richard, Jean Béliveau, sont un petit peu plus... C'est moins mon époque. J'avais énormément de respect pour les deux. Mais moi, c'est sûr que le mien, ça a été plus Guy Lafleur. Puis le respect qu'il m'a montré dans toutes les entrevues que j'ai faites avec lui, je ne l'ai jamais vu ou presque vu jouer. Puis c'est comme si je l'avais vu jouer. Fait que, tu sais, ça parle énormément.
Est-ce que, parce que, bon, Michael Lalancette a été un jeune, Michael Lalancette rêvait de couvrir les sportifs, t'as fait ton blog, après ça, t'as fait ton cégep, après ça, t'étais à l'université en journalisme, t'étais timide de ton propre aveu, c'est ce que tu nous as mentionné tantôt. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on t'a foutu devant une caméra? Ça devait être un cauchemar la première journée, puis comment t'as fait pour te rendre là devant la caméra, alors que toi, tu étais le petit gars timide?
Oui, bien écoute, c'est ça. Là, si mettons, on recommence à l'université, ben là, j'avais mon blog et tout ça. Puis à un certain moment donné, c'est beaucoup 2008, lorsqu'il y a eu la fameuse rivalité Chicoutimi-Québec, puis là, c'est le week-end de Pâques, puis moi, je suis au Saguenay. Je m'adonne à être là, moi, cette soirée-là. Et là, ben après ça, je me suis fait appeler par un poste de radio. Puis là, ben ça a été comme mes débuts en radio, ça a été là. Après ça, c'était comme de fil en aiguille. Puis en 2009, j'ai été engagé au Soleil à Québec comme journaliste surnuméraire. C'est Maurice Dumas. Je pense que ça faisait 5-6 courriels que j'y envoyais pour lui dire que si à un moment donné, il y avait de la place, ben moi, ça m'intéressait, puis tout ça. Puis j'y envoyais quand j'avais de la nouvelle, j'y envoyais les textes que je faisais. Puis ils voyaient bien que je voulais, tu sais. Fait qu'à un moment donné, ils m'ont engagé.
Ouais. Albert, étais-tu encore en vie à ce moment-là?
Oui, Albert était en vie. Ouais. Écoute, moi, j'ai été engagé au Soleil en 2009. Puis ma première Coupe Mémoriale, c'est à Rimouski en 2009. Puis Albert était en vie. Alors, on a fait la Coupe Mémoriale 2009 ensemble. Moi, c'était, tu sais, j'étais quand même, j'étais impressionné, là, moi, d'aller souper à la cage au sport après une game avec Albert Ladouceur, puis Kevin Johnston. Tu sais, c'était des gens que, je veux dire, je lisais puis j'admirais beaucoup. Et, ben, c'est ça. Puis j'étais encore à l'université à ce moment-là, puis je me souviens très bien dans mes cours, parce que je me suis inscrit à la maîtrise. Encore là, j'étais rempli de doutes. Fait que je me suis dit, s'il me faut un plan B, si ça marche pas. Fait que je me suis inscrit à la maîtrise en affaires publiques, en finance. Puis je revois encore les yeux méchants de mon professeur de maîtrise qui maintenant ben, était jusqu'à pas si longtemps ministre de la Capitale Nationale, Jean-Yves Duclos. À chaque fois qu'il me voyait sortir du cours, ses yeux devenaient méchants parce qu'il savait que le mercredi à 1h15, je sortais à tous les cours pour aller faire de la radio dans le corridor parce que j'avais des chroniques, que je commençais comme faire des chroniques et tout ça. C'est tout le, moi, mes chums d'université, puis c'était un running gag là, entre nous. 15 ans plus tard, j'avais un mariage d'un de mes amis récemment, puis tout le monde me disait, tu sais, c'est drôle, Michael, on savait tous que tu allais devenir un journaliste dans le sport. Il y a juste toi, on dirait qu'il t'ignorait. Là. Fait que je collais à maîtrise et tout ça. Puis, ben 2010, Sébastien Hallé, qui était producteur du hockey junior à Vox à l'époque, avant que ça devienne ma TV, m'a appelé et m'a dit « Écoute, on aurait quelque chose à t'offrir. » Fait que j'étais comme « OK, vas-y, je t'écoute. » Il dit « On t'offre une chronique de 5 minutes par match. Tu nous accompagnes sur la route, à Gatineau, à Chicoutimi, à Québec, peu importe où. On te paye l'hôtel. » Il dit « Moi, ça ne te coûtera rien en essence, tout ça. Je vais te faire le lift. Tu vas embarquer avec moi parce que lui aussi était à Québec. » Il dit « On s'en va sur la route. Puis tu as une chronique au deuxième entracte. » Fait qu'écoute, j'ai dit oui. J'ai dit oui. Je t'ai payé 150$ par match pour faire cette chronique-là, puis bien préparer, puis appeler plein de monde en semaine. Puis c'était du inside. Tu sais, là, ils voulaient les autres de l'information privilégiée. Puis écoute, ça a commencé comme ça. Et l'année d'après, TVA Sport a été lancé. Puis Patrick Caisse, qui était mon ami sur le web, que j'avais connu grâce au fameux site Internet que je construisais, puis tout ça, il a recommandé mes services. Il a dit à Paul Rivard, écoute, moi, je connais un gars qui est super passionné, puis il est bien plugué, il est bien influent. Il dit, il n'y a pas tant d'expérience en télé. Il y a un an derrière la cravate, mais il serait peut-être intéressé. Puis ils m'ont appelé. J'ai dit oui. Puis je me suis lancé dans cette aventure-là. Puis j'ai appris la télé sur le tas. Tu sais, moi, quand je rentre à TVA Sport, j'ai un an à faire des chroniques de 5 minutes. Là. Puis je veux dire, c'était des chroniques de direct. Fait que moi, monter un topo télé... faire un reportage, tu sais, j'oublie ça, là. J'étais même pas là, même écrire un texte de nouvelle, un texte, j'avais jamais fait ça de ma vie. Fait que j'ai appris sur le tas, puis ça a donné ce que ça a donné. Écoute, je pense que je me suis pas trop bien, je me suis quand même bien tiré d'affaires malgré tout.
Mais arrivé dans grosse ville, dans grosse ligue, ça devait être un peu terrorisant, là, les premières journées, du moins, là.
Oui, parce que tu lances quelque chose de gros, tu sais que les attentes vont être élevées. Je me souviens du premier meeting qu'on a eu sur le lancement de TVA Sport. On était au stade Saputo à ce moment-là, puis là, Pierre-Carl Péladeau fait son gros pitch de vente, puis là, on va prendre la place, puis tu sais, on veut la conquête du Québec, puis là, écoute, on a des bien grandes ambitions. Et là, ben là, tu réalises que les attentes vont être très élevées aussi, puis que, je veux dire, il faut monter un réseau de sports, tu montes pas ça comme ça, là. Alors, il y a ça, mais en même temps, je trouvais ça très euphorisant. Ça me faisait pas peur, je n'étais pas effrayé par le défi. Je me disais, écoute, je suis entouré de bien du monde qui a bien de l'expérience, puis je vais essayer de les suivre, puis je vais les. me laisser embarquer par cette fièvre-là.
Ouais.
Puis on travaillait, c'était 7 jours sur 7. Là. Tu sais, au début de TVA Sport, ça a été tout un feu roulant. J'ai déménagé, mais je n'ai pas déménagé. Ce sont mes amis, ce sont des gens qui voulaient mon bien, qui ont tout déménagé mes affaires de Québec à Montréal. Moi, j'étais au 10e étage à TVA, puis je travaillais sur TVA Sports. Ça a été ça, 7 jours sur 7 au début. Là, c'était effrayant, mais pas parce que c'était l'euphorie. Il n'y a rien qui bat ça. Une euphorie de bâtir quelque chose, là, ça, c'est très, très, très challengeant.
Puis on est dans un podcast. Sérieux, merci de m'avoir donné l'occasion de te rencontrer ce soir pendant plus de 60 minutes. Je sais que tu es occupé. On est dans un podcast où on peut aller à gauche et à droite, mais Comment ça a été pour toi, le petit gars timide qui, du jour au lendemain, arrive dans la grosse ville, arrive dans une nouvelle business qui s'appelle TVA Sport, t'es médiatisé de plus en plus, on te connaît le visage. Du jour au lendemain, te ramasser au restaurant puis à jaser avec les spectateurs de sport et tout ça. Comment t'as géré ça au départ, toi qui étais si timide?
Ça a été difficile. Moi, j'ai trouvé ça bien difficile. Moi, je suis quelqu'un qui est dans ma bulle. Mais d'un côté, j'aime jaser avec les gens. Puis, tu sais, ça, c'est dans le fond la beauté de mon histoire. Puis, je le répète, quand je vais dans des écoles, tu sais, la semaine passée, j'étais en Abitibi, j'ai fait une conférence pour des jeunes du programme Sport-Études des forestiers d'Amos. Puis, ce que je leur disais, c'est, tu sais, mettez-vous pas, vos craintes, vous allez en avoir, mais écoutez-les pas, cette petite voix-là, parce que ça va juste vous freiner. Puis moi, j'aime le monde. Alors, tu sais, d'un côté, je suis timide, mais en même temps, mon métier m'a forcé à sortir de ma coquille puis à aller au-devant des coups. Tu sais, je veux dire, tu te pointes, tu vas à Chicago, tu vas en Floride, tu vas en Californie, tu vas faire des entrevues avec des personnalités, tu te rencontres Gary Bettman, ben je m'excuse, t'as bien beau être gêné, OK, mais t'as pas le choix. Tu sais, faut que tu fasses l'entrevue, t'es envoyé pour ça. Alors, ça m'a forcé à me dépasser. Puis, je l'ai apprivoisé, ça. Tu sais, mais même encore aujourd'hui, quelqu'un qui va m'arrêter, ça provoque une réaction intérieure. Je me gère, ça va, là, tu sais, j'ai de l'expérience, tout ça. Mais j'ai encore la petite... pas humilité, c'est pas le bon mot, mais la petite réserve qui fait en sorte pourquoi j'ai droit à cette reconnaissance-là. Je chauffe pas des vies, je suis journaliste, j'écris des livres, oui, mais... Fait que je l'ai encore, mais je suis très fier de ce que j'ai accompli. Fait que, tu sais, des fois, quand je sais pas, je suis gêné ou je sais pas trop quoi, je me dis, hey, tu sais, t'as le droit d'être fier. Ça, c'est ce que je me dis, je suis capable de me dire de plus en plus avec les années qui passent et l'expérience qui est rentré.
Absolument. Je rappelle aux auditeurs que ce soir, on a le plaisir de jaser pendant 60 minutes avec Michael Lancette, journaliste sportif. On va faire une courte pause et on revient tout de suite.
Marceau, le soir.
Boulevard 102.1.
Tous les vendredis, dans Gravel, dans le retour, on a l'immense privilège de recevoir Pierre Houde. Un vrai couteau suisse. Parce que, oui, vous le connaissez pour le hockey et la F1. Mais il peut aussi vous parler musique, bonne bouffe et vin. Il peut même devenir votre conseiller voyage.
Mais ça a l'air le fun à Salt Lake City.
Il avait l'air d'avoir de l'ambiance.
On dit « keep Austin weird
oui. ».
Keep Salt Lake weird ». Mais de la bonne façon, je le dis avec affection. Mais c'est tellement cool. J'ai jamais vu autant de barbe à la ZZ Top, Denis.
Non, 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 non.
Je te jure, il y en avait 3-4 par restaurant.
Pierre Houde, votre incontournable du vendredi.
As-tu déjà pensé faire carrière dans un établissement scolaire privé? Le 12 avril, Boulevard 102.1 t'invite à venir rencontrer des spécialistes en ressources humaines au Salon de l'école privée de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches. Que ce soit en enseignement, maintenance de bâtiments, sport et loisirs, des emplois passionnants et des conditions de travail avantageuses t'attendent. Rendez-vous le 12 avril prochain, de 9 à 14 heures, au PEPS de l'Université Laval pour le Salon de l'école privée. Détails au salonécoleprivée.com.
Voici de bien bonnes raisons de vous procurer le Kicks chez Sainte-Foy-Nissan et Beauport-Nissan. En ce moment, le Kicks est offert en location sur 39 mois pour l'équivalent de 69 $ par semaine. Wow! Et pour souligner que Nissan est ici avec vous depuis 60 ans, vous obtenez un super boni de 1 500 $ et vous courez même la chance de gagner votre achat. Allez, passez chez Beauport-Nissan et Sainte-Foy-Nissan et venez essayer votre Kicks. À compte de 1 599 $, les conditions s'appliquent.
Salut tout le monde, c'est Reg. On est déjà rendu au dernier épisode de la saison de Reg La Planche Backstage. Je vous invite à aller écouter les 4 épisodes jusqu'ici. Et on termine ça en grand avec lundi 31 mars, une super jasette avec mon ami et mentor, le grand Denis Talbot.
Reg La Planche Backstage, présenté par ABBA Extermination. Souvent imité, jamais égalé. Ils ont la solution pour éviter que les rongeurs et les insectes cohabitent avec vous. Demandez votre soumission gratuite au abbaextermination.ca.
Équipez-vous pour l'aventure au Salon plein air chasse, pêche et camping, présenté conjointement avec le Salon du bateau de Québec. Le plus grand événement de plein air revient au centre de foire Expo Cité jusqu'à dimanche pour une fin de semaine débordante d'activités. Vous y trouverez les dernières nouveautés en matière de chasse et pêche, bateau, camping, VR et plus encore. Des conférences passionnantes toute la fin de semaine avec des experts, dont moi, Patrick Campeau. Le Salon plein air chasse, pêche et camping de Québec jusqu'à dimanche au Centre de foire Expocité. Détails, salonpleinairquebec.ca.
Vous aimeriez apprendre à faire vos propres investissements boursiers? Assistez à la séance d'information gratuite avec Gaétan Royer, lundi 31 mars, 19h. Réservez votre place au cobaltinvestissement.com, un webinaire à ne pas manquer, cobaltinvestissement.com.
L'événement du printemps est enfin arrivé. Du 3 au 6 avril, c'est la foire du VR9 et d'occasion au Centre de foire d'Expocité. Plus de 200 VR sous un même toit. Que vous cherchiez un véhicule neuf ou d'occasion, c'est l'endroit parfait pour réaliser votre rêve. Conférences, produits et services pour le VR et le camping, de tout pour partir à l'aventure. Ne manquez pas la foire du VR9 et d'occasion, présentée par l'assureur Aviva. Infos et billets sur lafoireduvreetducamping.com.
Vous êtes propriétaire d'une piscine en béton et elle a besoin d'amour? Les experts de chez Piscine LMJ se chargent de la restauration, du décapage au jet de sable, de la peinture, de la réparation du béton et mécanique. Piscine LMJ fabrique également des piscines neuves entièrement en béton sans toile. Vous êtes entrepreneur, architecte ou paysagiste et vous avez un projet incluant une piscine sur mesure? Piscine LMJ peut vous accompagner et vous conseiller. Piscine LMJ, le plaisir de construire. LMJinc.ca.
Plus que jamais, c'est le temps de consommer local.
Pis ça tombe bien, c'est le temps des sucres chez Lefrayer. Trois plats exclusifs débordants de jambon maison puis de sirop d'érable à 20$ chaque. Puis pour un petit 5$ d'extra, t'as un milkshake au bacon ou un latte à l'érable. Ben gadon.
Mais grouille-toi, capitaine, c'est seulement du 3 mars au 27 avril. Après ça, c'est fini, bye-bye. On range le sirop puis on sort les maillots, là.
Ça, c'est un jeu de mots, maillot de bain, mayonnaise, t'as pointu? OK. Pas de chicane dans ma cabane chez Lefrayer, il y en a pour tout le monde. Mais pour un temps limité, fait que dépêche. Ah ouais.
Les feuilles de temps papier, c'est archaïque. Évite les erreurs coûteuses et rends ton processus plus simple et efficace. Passe immédiatement à Mobile Punch et économise temps et argent. MobilePunch.com.
Vous vous faites dire...
Voyons, pourquoi mon ordi marche pas?
Ou encore...
Hey, tiendrais-tu checker la console? Il y a un problème, là. Ça marche pas.
À longueur de journée, puis ça vous fait triper? Venez vous joindre à notre équipe de feu comme technicien informatique. Leclerc Communication est à la recherche d'un kingpin de l'informatique.
Un Jedi des télécoms.
Pour qui les serveurs, les consoles et les systèmes d'exploitation n'ont pas de secret.
Vous êtes débrouillard et vous avez une formation pertinente, soit en informatique, en télécom ou même en audiovisuel.
Postulez dès maintenant sur lecarrière.fr.
Boulevard 102.1.
Ta Kia K4 est magnifique.
Je le sais. Regarde son look. Surtout, c'est fort.
Hey, j'avais pas vu l'intérieur. On dirait qu'il y a beaucoup de technologie.
Ouais. J'ai même l'assistance au maintien de voie.
Est-ce qu'elle est fun à conduire?
Vraiment. Puis avec la garantie 5 ans ou 100 000 km, je roule en confiance.
T'as vraiment l'air sous le charme.
Du style, une technologie innovante et des tarifs avantageux. C'est sûr que je peux compter sur ma Kia K4.
Passez chez votre concessionnaire pendant l'événement Comptez sur Kia et profitez d'un boni du printemps de 500$. Visitez kia.ca.
Kia. Du mouvement vient l'inspiration.
Boulevard 102.1.
De l'actu, du sport, de la circulation, du showbiz. Il se passe de quoi, vous allez le savoir en premier. Il se passe rien, vous allez le savoir aussi.
C'est simple. Ah!
Boulevard 102.1, connecté sur ce qui se passe à Québec. Tes sujets, ton rock, ta radio.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Mickaël Lalancette, journaliste sportif, est avec nous aujourd'hui. Bon, en fait, ce soir, devrais-je dire. Mickaël, tu as couvert le hockey junior pendant des années et des années. Bon, tu regardes aussi ce qui se passe au niveau de la Ligue nationale de hockey. Quelle est la place du hockey au Québec dans les ligues professionnelles maintenant, que ce soit dans la Ligue nationale ou encore dans la Ligue américaine? J'ai l'impression que peu à peu, il y a de moins en moins de Québécois qui sont présents. Est-ce que vous êtes capable, toi et ta gang, d'identifier certaines pistes qui pourraient faire en sorte que, bon, on devrait peut-être mieux orienter le hockey au Québec, ce qui ferait en sorte que dans quelques années, bien, on aurait peut-être un peu plus de Québécois dans la Ligue américaine, dans la Ligue nationale?
Il va falloir faire plus qu'une heure parce que honnêtement, le chantier, il y a un gros chantier à faire. Je pense qu'il y a un coup de barre à donner. Puis, tu sais, je veux dire, je peux bien être optimiste de certains jours, mais tu sais, en même temps, les chiffres nous rattrapent, comme on dit. On le voit bien qu'il y en a moins. que c'est plus difficile pour la place des Québécois. Le hockey, c'est internationalisé. Des fois, on regarde ça, puis la tendance est négative pour le Canada au grand complet. Là. Le Québec n'est pas seul là-dedans, mais je pense que dans les provinces qui perdent, on est dans celles qui perdent le plus. Ça, c'est indéniable. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour renverser ça? Moi, je pense que... j'adore le hockey. C'est mon sport préféré, je l'ai dit tantôt. Puis, je pense qu'il faut revenir au plaisir. Il faut revenir plus à la base. Là, on a des entraîneurs de toutes maintenant. Hey, des coachs de goaler, Yannick, il y en a. Maintenant, il y en a comme il n'y en a jamais eu. Puis pourtant, on a l'impression qu'on produit plus de gardiens de but pour le hockey professionnel. On a perdu ça. C'est un avantage qu'on avait, on l'a plus. Moi, je pense qu'il faut revenir au plaisir. Moi, des histoires d'horreur, puis c'est dommage parce que, tu sais, le hockey, j'adore ça. Mais le nombre de messages que je reçois par semaine de gens qui déplorent des situations, qui me disent « voici comment que c'est, voici la politique, voici ci, voici ça », je me dis « voyons comment ça qu'on s'est éloigné du plaisir ». Tu sais, le fun, le plaisir, là, puis quand il n'y a plus ce plaisir-là, bien, c'est sûr qu'il y a des parents qui se disent « hey, au prix que ça coûte, je vais-tu vraiment inscrire mon enfant dans un sport où est-ce que c'est gangréné par la politique? » Que il y a des histoires de ci, de ça. Puis moi, je ne veux pas brosser un portrait que sombre du hockey parce que moi, je suis sur le plancher, je suis sur le terrain. Je m'en suis toujours fait une fierté. Et une chose que je constate, c'est que on peut casser du sucre sur le dos du hockey, sur le dos du hockey tant qu'on veut. Mais je veux dire, c'est pas que de l'horreur. Il y a des méchantes belles histoires dans le sport. Puis je veux dire, des finissants, des gens qui sont allés à l'université, qui sont allés au cégep, qui auraient décroché dans la société en général, mais qui ont été forcés de suivre des cours techniques, puis finalement qui sont devenus menuisiers. Puis parce que leur équipe junior les a forcés à étudier, il y en a plein des histoires, mais ça, on n'en parle pas dans les grands médias. Fait que ça, c'est le premier point, revenir au plaisir. Puis le deuxième élément, bien, c'est comment tu développes. Tu sais, Et ça, je pense qu'il y a un problème. Là, la structure, elle a été éclatée. On est dans le scolaire, on est dans le civil. Tu sais, il faut se trouver une façon de ne pas prendre les jeunes en otage, de leur donner le plus d'options possibles, mais il faut revenir à la base, quelque chose de plus simple, puis dire, tu sais, on construit-tu ça autour du scolaire, comme c'est le cas aux États-Unis, par exemple, où on reste en ce moment dans un modèle hybride, mais dans lequel on a l'impression qu'il n'y a personne qui gagne, qu'il y a juste des perdants. Fait que c'est un débat qui n'est pas simple, je le sais, mais je pense qu'il faut revenir au plaisir. Là, on l'a perdu de ça.
J'ai le goût de t'amener des hypothèses. Est-ce qu'on a embourgeoisé le hockey? T'sais, moi, je m'explique, là, mes gars ne sont pas encore à de haut niveau au niveau du hockey, mais ça me coûte énormément cher d'essence puis d'hôtel lorsqu'il y a des tournois. Ça finit plus. On sort constamment de l'argent de nos poches. Puis je me dis, quelqu'un qui nous écoute, là, qui travaille au salaire minimum, là, puis qui a un petit gars qui rêve de jouer au hockey, pour lui, là, jouer au hockey, c'est inaccessible en raison des coûts. Là. Je veux dire, les gens ne peuvent pas se permettre de partir comme 4-5 fins de semaine par année, 2 jours à l'hôtel minimum pour des tournois de hockey, quand ça coûte à 200$ la nuit, 300$ la nuit à certains endroits. Tu te dis, tabarouette, le hockey s'est rendu ça, c'est rendu un sport de riche, là, puis ce qui fait en sorte qu'un jeune qui est hyper talentueux, lui, ben, il n'aura jamais la chance de jouer dans une ligue de hockey.
Ah, écoute, honnêtement, je veux dire, là, puis ça, et le nombre, les camps, le hockey d'été, le hockey de ci, le hockey de ça, les cours de power skating, là, on a multiplié toutes les occasions pour certaines industries. Puis écoute, il y a des spécialistes, puis ils ont le droit de gagner leur vie, puis c'est bien correct. Sauf qu'à un moment donné, comme parent, là, tu sais, je veux dire, du hockey 11 mois par année ou 11 mois et demi par année pour un jeune, là, c'est malsain. Yannick, c'est malsain. Moi, moi, ce qui m'a frappé, puis je le vois, la tendance, puis la tendance, c'est-tu quoi? Elle s'accentue. C'est le nombre de jeunes de 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans qui arrivent dans les plus belles années. Parce que, je veux dire, c'est là qu'ils peuvent se permettre de rêver, là, puis de réaliser leur potentiel. Physiquement, ils arrivent avec une certaine maturité et tout ça, mais sont écœurés, sont tannés parce qu'ils ont fait que ça. Et, tu sais, quand je parle du plaisir, c'est ça là, dont il est question. C'est dans le sens de dire, pourquoi nos jeunes, au lieu de jouer au hockey 12 mois par année, Ils ne jouent pas au tennis l'été. Ils ne jouent pas au baseball l'été. Pourquoi sont obligés de jouer 12 mois par année pour devenir bons? C'est pas vrai. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Les habiletés motrices, les autres aptitudes que tu développes, tu sais, comment lancer une balle de baseball, comment frapper. Je veux dire, ça, là, ça devrait être essentiel. La diversification permet à nos jeunes de s'amuser. Quand ils vont retrouver son bâton de hockey, puis sa paire de patins au mois d'août, là, il va être bien content, puis il va avoir envie de les mettre, ses patins. Mais si tu as passé l'été sur une patinoire, pendant que tes chums sont dehors, qu'ils profitent de la vie autour d'un lac, puis qu'ils jouent dans un lac et tout ça, bien, tu sais, ton jeune, là, moi, il y a de l'épuisement. Il y a des jeunes qui font des burn-out à 16 ans, 17 ans. Je connais plein d'équipes juniors qui sont obligées d'engager des psychologues sportifs. Puis là, une des questions qui revient beaucoup, c'est pourquoi tu n'es pas motivé? Ben voyons pourquoi tu n'es pas motivé. Ça fait 10 ans de sa vie qu'il joue au hockey 11 mois par année. Je veux dire, moi, j'aime ça. Puis l'été, je suis écœuré. Après le repêchage, je suis tanné d'en entendre parler du hockey. Puis je suis là-dedans, puis c'est ma passion de ma vie.
Ouais.
Fait que je veux dire,
t'as besoin d'un break.
Ça, il faut revenir au plaisir. Okay. On n'a pas le choix.
Est-ce qu'il y a une différence? Parce qu'on revient toujours là, sur la question pourquoi il y a de moins en moins de Québécois dans la Ligue nationale de hockey. Il peut-tu avoir une différence entre les besoins de la Ligue nationale, donc le plan d'affaires de la Ligue nationale versus ce que la Ligue de hockey junior majeur désire avoir comme spectacle sur la glace? Moi, je vois régulièrement voir des matchs de hockey junior. Je trouve que dans les dernières années, le hockey junior s'est grandement amélioré au niveau de la qualité des passes, au niveau de la qualité des tirs. C'est de plus en plus puissant, mais la grosseur des joueurs semble avoir diminué avec le temps. Puis dans la Ligue nationale, bon, le Canadien va me faire mentir parce qu'il y a énormément de petits joueurs, mais dans la Ligue nationale, il y a beaucoup de gros bonhommes, tellement que vendredi de v'là deux semaines, quand j'étais au hockey junior, je voyais un défenseur qui semblait beaucoup plus grand que la moyenne. Puis je me suis dit, tiens, je le connais pas, lui, mais il doit être à 6-7, 6-8. Là, j'ai fait un saut parce que je faisais la comparaison, Michael, avec les autres joueurs qui étaient sur la glace, les autres joueurs juniors. Puis il était à 6-2, mais il avait une tête de plus que tout le monde. Je me suis dit, attends un peu, là, il y a quelque chose là. Moi, je me souviens du hockey junior où on prenait des gars de 6-1, 6-2, 6-3, 6-4. Puis c'était tough, là. Là, on a mis l'accent sur la vitesse dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, junior maritime, si pour les gens qui sont qui connaissent le nouveau nom. Là. J'ai l'impression que c'est pas le même produit, Ligue de hockey junior majeur du Québec, que Ligue nationale. On ne demande pas la même affaire pour les joueurs qu'on veut. Ça se peut-tu?
Ça se peut très bien. Mais en même temps, j'aurais le goût de dire, tu sais, moi, je trouve qu'on a l'air de cracher un peu dans la soupe parce que tu regardes les joueurs dans la Ligue nationale actuelle. Des Québécois, il y en a un méchant paquet des petits joueurs, là, des Samuel Girard, ouais. Jonathan Marchessault, Yannick Gourde, je veux dire, il y en a un peu un autre, là, des petits joueurs qui ont fait leur place.
C'est des gars qui sont établis depuis un bout, là.
Oui, c'est sûr. Mais moi, je pense qu'avec le hockey aujourd'hui, c'est possible maintenant pour les petits joueurs d'avoir des carrières dans la Ligue nationale. Fait que je suis pas sûr qu'il y ait là le problème. Je sais, je l'ai vu, tu sais, bon, notamment, il y a mes collègues du journal, là, mon ami Kevin Dubé qui a fait un dossier là-dessus. Puis il y a des recruteurs qui se servent de ça pour dire, ben là, c'est voici pourquoi le Québec produit moins de joueurs. On se concentre trop sur les petits joueurs. Moi, je trouve que. Je ne suis pas sûr que j'achète cet argument-là, dans le sens que je me dis, tu sais, j'en ai vu, là, moi, des gros joueurs. Là. Puis, est-ce qu'on est assez patient avec eux? Peut-être pas. Mais je veux dire, des gros joueurs qui ne se sont pas développés, puis il y en a, là. Alors, honnêtement, je ne l'achète pas, moi, cette raison-là. Moi, je pense qu'on est. C'est un problème de développement. Écoute, c'est pas. Les petits joueurs. Oui, on en produit, mais on n'en produit pas tant que ça non plus. C'est moi, le problème, il est généralisé. C'est la même chose pour les gardiens de but. Fait que moi, j'ai de la misère à acheter cet argument-là. Je peux le comprendre, mais on a déjà souvent entendu ça, là, que le Québec produisait juste des petits joueurs. Puis à l'époque, une des critiques qu'on avait, c'est qu'on ne produit pas de défenseurs. Bon, ça a changé. Mais moi, je pense que c'est sur le développement au sens large. Moi, je pense qu'à l'étape où on en est rendu, là, écoute, on ne développe plus de petits, on ne développe plus de gros. On ne développe plus de gardiens, on ne développe plus grand-chose. Là. Il y a eu des années qu'on développait des entraîneurs. Je suis pas sûr qu'il y en a énormément qu'on développe pour les rangs professionnels non plus. Moi, je pense que c'est une grosse remise en question qu'on doit faire. Mais moi, j'en reviens au développement. On n'a pas le choix. Puis le plaisir. Il y a des affaires qui ont été perdues. Puis je pense qu'on ne compte pas ça en pouce, puis en pied, puis en livre.
OK. Ben, ça le mérite d'être clair. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, parmi les grands personnages de l'histoire, là? Qu'est-ce qui t'a marqué de ces gens-là qu'on ne voit plus nécessairement aujourd'hui chez certains joueurs? Tu sais, tu parlais de l'humilité. Est-ce que les joueurs aujourd'hui sont aussi humbles quand ils arrivent au sommet dans la Ligue nationale de hockey, exemple?
Moi, je trouve que oui, honnêtement. Ça, là-dessus, j'ai pas de reproche à faire à nos jeunes hockeyeurs et à nos meilleurs. Non, au contraire, je trouve qu'ils sont bien élevés, ils sont fins, ils sont...
Souvent, on nous disait que les temps durs produisent des gens durs, puis ça faisait en sorte qu'une fois que le gars il était rendu dans la Ligue nationale de hockey, qu'il était bien établi, il était capable d'être assez relax. Les gens qui ont eu tout cuit dans le bec, des fois, on a l'impression qu'ils peuvent, une fois rendus dans le show en haut, être un peu hautains et prétentieux. Mais toi, c'est pas ce que tu ressens actuellement, là.
Non, pas tant que ça, je te dirais. Moi, je trouve qu'une des choses, c'est peut-être... l'espèce de, tu sais, répondre dans l'adversité, ça, des fois, je me pose des questions. Je me dis, tu sais, je trouve qu'on est beaucoup... Il y a un peu de nivellement par le bas dans certaines affaires. Ouais. Je trouve là que, tu sais, mon Dieu, faut pas trop déplaire. Mais je veux dire, la vie, c'est pas ça, là. Tu sais, la vie, là, c'est un échec dans ton milieu de travail. La vie, c'est un échec amoureux, c'est un échec familial, c'est un conflit, c'est une déception. Je veux dire, tu sais, tu peux pas évacuer les grands principes de la vie dans le sport, c'est pas vrai, là. Tu sais, l'adversité, puis être tranché, puis des fois, j'ai l'impression qu'il y a un peu de nivellement par le bas. Mais en même temps aussi, je me dis, tu sais, notre sport, là, puis particulièrement le hockey, tu sais, ça a dérapé aussi solide, là. La culture de l'intimidation, il n'y a plus personne qui veut revenir à ça. Mais entre l'intimidation, puis entendre la vérité, ça, il y a beaucoup d'entraîneurs qui me disent, hey, Michael, maintenant, on n'a plus le droit de dire ça. Tu n'as plus le droit de le dire, même si je le dis de façon constructive. Il y a des jeunes qui ne veulent plus entendre ça. Alors ça, c'est sûr que là, moi, ça, j'aime pas ça, entendre ça, parce que je me dis, on ne rend pas service à ces jeunes-là si on ne leur dit pas la vérité. Si on est tout le temps dans les faux fuyants, puis on prend les trois paires de gants blancs, des fois, il faut en mettre juste une paire de gants blancs. Des fois, il faut en enlever un gant, tu sais, parce que je veux dire... Tu ne rends pas service si tu ne dis pas les vraies choses. Et en ce sens-là, des fois, j'ai l'impression que la nouvelle génération, aussi ouverte sur le monde qu'elle est, puis plus, des fois, plus déniaisée, tout ça, qu'on l'était peut-être à leur âge, des fois, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup de difficultés à composer avec la vérité, en situation de pression, parce que ce qu'on nous dit dans les études, dans toutes les études, puis ça, c'est tous les pays qui sont dans le même bateau avec ça. Puis je ne sais pas c'est lié à quoi, c'est lié au téléphone, aux réseaux sociaux, mais il y a une extrême anxiété. Mais cette anxiété-là, elle a été créée par quoi? Le monde dans lequel on vit ou si on l'a construite, l'anxiété? Tu sais, c'est philosophique un peu, là, mais je te dirais que moi, là, je te le dis, Yannick, je croise des jeunes... De 16 à 20 ans dans le jeu hockey junior, dans les universités, dans le sport universitaire. Puis je suis épaté par le respect. Des manques de respect, des manques d'humilité, je suis pas sûr que c'est un problème dans notre sport au Québec.
Est-ce que le sentiment d'appartenance, tu le ressens aussi intense que c'était dans le temps? T'sais, moi, j'étais un peu plus vieux que toi, je suis rendu un vieux monsieur, mais je me souviens des gens qui jouaient pour le Canadien de Montréal. Ça représentait quelque chose d'intense. Les gens qui jouaient pour les Nordiques de Québec, c'était très, très, très intense. Les fans étaient très intenses. D'un party de Noël, s'il y en avait un qui osait dire que c'était un bleu puis il était entouré de rouge, il se faisait écœurer, puis des fois, à la fin de la soirée, il y avait un peu d'alcool au travers, ça se poignait par le collet jusqu'au prochain match. C'est plus ça aujourd'hui, là. C'est rendu des PME. Chacun s'est rendu des PME, puis ils jouent pour leurs petites affaires, là.
Oui, non, ça, écoute, oui, là, ça, c'est aucun doute là-dessus. Puis, tu sais, je veux dire, en même temps, si je joue l'avocat du diable, deux affaires, Yannick, là-dessus. Premièrement, on ne peut pas demander aux athlètes d'être loyaux, d'avoir un sentiment d'appartenance quand même les organisations de sport ne le sont pas. Dans le sens que maintenant, les joueurs se font transiger. Tu sais, notre réalité aujourd'hui, là, c'est des joueurs qui vont jouer deux puis trois fois pour la même équipe, mais dans deux, trois périodes différentes parce qu'ils sont échangés ailleurs. Ils reviennent après ça sur le marché des joueurs autonomes. Ils repartent, ils reviennent. T'sais, comment tu peux demander à des athlètes professionnels d'avoir un sentiment d'appartenance, une loyauté indéfectible quand, comme organisation, tu es prêt à envoyer des joueurs ailleurs pour régler ton problème de masse salariale? Quand, tu sais, je veux dire, c'est pas à sens unique, ça. Fait que, tu sais, des athlètes comme Sidney Crosby, qui refusent moins, tu sais, qui acceptent d'avoir moins d'argent pour rester dans la même équipe, je veux dire, on a de moins en moins, ouais, ça, puis on va en avoir de moins en moins.
Parce Martin Brodeur le fait.
Exact. Non, il y en a qui l'ont fait, mais tu sais, dans les 15-20 prochaines années, j'ai hâte de voir combien d'athlètes vont faire ça.
Ouais.
J'ai hâte de voir ça. Fait que ça, c'est ma première réponse. Puis ma deuxième réponse, c'est que, tu sais, des fois, on a tendance à être nostalgique, à dire, hey, dans ce temps-là, c'était bien mieux. Mais moi, je me suis amusé avec ça quand j'ai écrit le livre sur Georges Vézina. Mais je peux te dire, Yannick, que Georges Vézina, quand il débarque avec le Canadien de Montréal en 1910, fait que ça, c'est il y a 115 ans, là, dans les journaux de Montréal, il y a une explosion des salaires à ce moment-là. Lui, il a signé pour 800$ pour la première année. Et les journaux disent « ça n'a pas de bon sens, les athlètes professionnels pensaient qu'à l'argent, puis maintenant, ils ne jouent plus pour le logo, ils ne jouent plus pour… » Alors ça, si ça existait, ce discours-là, en 1910, ça veut dire que dans le fond, on revit des affaires qu'on a déjà vécues, puis ces critiques-là, ils ont été entendues. Mais c'est sûr que je ne veux pas comparer là, ces deux époques complètement différentes, puis 800$, le salaire moyen au Québec était de 400$ à cette époque-là, d'un ouvrier salarié. Et je veux dire, personne qui veut revenir en 1910. Là.
Ben non.
Mais il y a des thèmes comme ça qui reviennent, puis ça ne date pas d'hier. Ce serait un peu la nuance que je voudrais apporter.
Oui, effectivement. Hey, pourquoi tu as décidé de... Bon, tu étais à l'écrit, tu as décidé de faire de la télé par la suite. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu as re-switché vers l'écrit, que tu es revenu à tes anciennes amours?
Ben, en fait, c'est en 2020. Tu sais, il y a eu la pandémie. Ouais. Je suis tombé en mise à pied, d'ailleurs. Yannick, c'est drôle qu'on se parle ce soir parce que il y a 5 ans, jour pour jour, le 27 mars 2020, j'ai reçu ma lettre de mise à pied temporaire de TVA Sport. C'était à COVID. Alors, on s'est tous retrouvés, ou presque, là, à part certaines vedettes de mes collègues, là, certains collègues qui sont restés à l'emploi. Sinon, tout le monde, on s'est retrouvés en mise à pied. Fait que là, moi, je me suis dit, premièrement, ça a été un énorme choc. C'est une peine, un échec. La liste des qualificatifs, elle serait longue. Là. C'était un gros coup dans ma vie, ça. Parce que je le voyais vraiment comme un échec. Puis je me suis dit, comment je me réinvente? Comment je fais quoi, moi, là, de ma vie, là, maintenant, que je ne sais pas quand est-ce que je vais recommencer à travailler? Tu sais, au début de la COVID, on ne savait comme pas trop. Mais ça a duré plusieurs mois. Fait que ça a été des mois de remise en question, de « je continue-tu là-dedans? TVA, c'est-tu encore ma famille? » Tu sais, moi, je le voyais comme une certaine trahison. Je ne revenais pas. Ils ont rappelé plein de monde. J'ai été dans les derniers rappelés avec d'autres collègues. Puis, je me suis posé énormément de questions dans ces mois-là. Puis, quand je suis retourné à TVA au mois d'octobre, ils m'ont rappelé en octobre, puis j'avais eu le temps d'écrire mon premier livre, Georges Vézina. Et là, honnêtement, c'est comme si j'ai fait ma peine ou j'ai fait... j'ai vécu mon deuil à la petite semaine, dans le sens que je me suis éloigné sans m'éloigner. Et après ça, ben là, en novembre, ils ont annoncé que les nouvelles étaient abolies, qu'ils coupaient tant de postes et tout ça. Et ils offraient des packages. On a eu une rencontre et ils m'ont dit, ben, ce qu'on a à t'offrir, c'est un package de départ. Alors, moi, je me suis dit, écoute, j'ai 35 ans. Je fais quoi de ma vie maintenant? Là? Tu sais, ma vie n'est pas finie. Je veux dire, il faut que je me fasse confiance. Je vais quitter puis je vais faire d'autres choses. Je vais prendre une pause pour voir. Je continue-tu dans cette folie-là de galère des médias, que ça ne va pas bien, que c'est juste de la décroissance, ou je m'ennuie encore de faire ça. Alors, j'ai pris quelques mois. Je me suis ennuyé rapidement de mon métier. J'avais l'impression, je me suis dit, écoute, j'ai jamais couvert de Jeux olympiques, j'ai jamais fait couvert plein de trucs que j'ai pas eu la chance de faire et tout ça. Et je me suis dit, je recommence, j'y retourne. Fait que j'ai pris quelques mois, j'ai écrit 2 livres durant cette pause-là. Je suis retourné au soleil en 2021. Fait que, tu sais, le virage ou la pause ou la réflexion, le changement, ça s'est fait malgré moi. C'est pas moi qui ai initié ça. Mais après coup, tu sais, là, maintenant, j'ai 5 ans de recul. Premièrement, c'est un des plus beaux cadeaux que la vie m'a fait le 27 mars 2020 parce que ça m'a forcé à aller expérimenter autre chose. J'ai fait 6 livres depuis ce temps-là. J'ai vécu des aventures extraordinaires. Je vis des salons du livre. Je fais des voyages que je n'ai jamais fait. Je fais des rencontres. Tu sais, je veux dire, je vis du beau. Et je ne l'aurais pas vécu si j'étais resté à TVA Sports. J'aurais vécu d'autres choses. Mais je n'aurais pas vécu ça. Et ça, je ne veux plus l'échanger. Je ne veux plus le perdre. Puis je vais continuer de faire des livres. Puis, tu sais, il n'y a pas une semaine qui passe sans que des gens m'écrivent, me disent « Hey, j'ai adoré ton livre » ou « J'ai découvert telle histoire ». Puis ça, bien, c'est vraiment très précieux. Alors, je le cultive, mais c'est une longue réponse, mais pour te dire que dans le fond, j'étais passionné encore. Tu sais, le petit gars de 20 ans qui appelait Patrick Roy puis qui avait un scoop, là, j'aimais encore ça, ce thrill-là. J'aimais encore mon métier. Puis, ben, je ne voulais pas que ça arrête. Fait que c'est pour ça que je l'ai vécu difficilement en 2020. Mais maintenant, j'ai de la gratitude envers ça. Puis, je suis très heureux que ça me soit arrivé. Ouais. C'est bizarre à dire. J'aurais jamais pensé dire ça.
Mais ce que j'ai dit tantôt. Les temps durs donnent des gens qui deviennent de plus en plus durs. Puis aujourd'hui, tu as réussi à refaire ton refaire vivre ta passion d'autrefois, c'est-à-dire l'écriture. Tu le fais bien hein, en passant par tes auteurs. Tu as fait plusieurs livres. On parlait de Georges Vézina tantôt. Tu as fait l'histoire des remparts de Québec, 25 ans de passion. Tu as fait le livre sur Mike Bossy. Il me reste à lire ton 25 ans sur le déluge du Saguenay, là. Mais c'est tous des livres que j'ai appris.